Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1975 et voici le 5e et dernier épisode. Au programme, le suicide de Mike Brandt, un concours qui peut en cacher un autre, la réouverture de Versailles et la foire aux célibataires en Bretagne.
1975, on de la raconte sur Europe 1.
Le 25 avril 1975, le corps du chanteur Mike Brandt est retrouvé au pied d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Il vient de faire une chute de 6 étages et il décède dans l'ambulance qui le transporte à l'hôpital Ambroise Paré. Pour son impresario, Simon Weintraub, il n'y a pas de doute sur les causes de sa mort. C'est un suicide.
Je n'ai vraiment aucune explication. Mike est un garçon qui souffrait du drame de la solitude. Il n'avait pas de famille. Enfin, il avait une famille très éloignée de sa mère qui vivait en Israël et qu'il voyait très rarement. Il n'avait pas d'autre famille. Il était à la recherche d'une famille. C'est un drame de la solitude.
Lorsque la mère de Mike Brandt apprend son décès, elle répète plusieurs fois « Ils ont tué Moshe. Ils ont tué Moshe. » Elle accuse bien sûr le showbiz, car Mike Brandt souffrait de dépression et il était soigné pour cela.
Malheureusement, il ne prenait pas ses médicaments car il était sous traitement. Et il n'y avait rien à faire pour lui faire prendre ses médicaments. Il s'arrêtait tous les 8 jours, il fallait l'obliger à les reprendre, etc. Et même les médecins avaient beaucoup de mal avec lui.
En vérité, quelques mois plus tôt, Mike Brandt avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il s'était défenestré du 5e étage d'un hôtel de Genève. Hormis quelques blessures, il s'en était sorti.
Comment expliquer alors qu'en moins de 5 mois, il ait de nouveau tenté de mettre fin à ses jours de la même façon?
N'importe quel médecin vous diront que les défenestrés, en général, recommencent. En tout cas, c'est l'explication que j'ai eue du professeur qui soignait Mike à Genève et que j'ai eue au téléphone cet après-midi.
Mike Brandt n'a laissé aucun mot pour expliquer son geste. 10 jours plus tôt, le 15 avril 75, il venait d'enregistrer un nouveau tube et il devait en débuter la promotion. C'est ce que raconte l'animateur Guy Lux.
Ring Parade, qui vous le savez, est une émission joyeuse, gaie, dynamique et qui est ouverte à tous les succès d'aujourd'hui et de demain. Cela dit, ce soir, nous allons faire une exception. En effet, pendant quelques instants, nous allons écouter une chanson que vous n'avez jamais vue et que vous ne verrez jamais plus. Elle est en effet enregistrée par quelqu'un qui nous a quittés tragiquement, quelqu'un que nous aimions beaucoup et que nous devions accueillir ce soir même, ici, pour sa rentrée. Précisément avec cette chanson, c'est pour cela que nous vous la présentons. Cette chanson peut être la plus belle, sa dernière. Dis-lui. Allez voir.
Fais ça pour moi, dis-lui. Que les jours sans elle me semble moi long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait
Mike Brandt, donc, son tout dernier tube en tête du hit parade pendant 6 semaines d'avril à mai 1975.
Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
En juin 1975, plusieurs salles du château de Versailles s'apprêtent à rouvrir au public, après 10 ans de fermeture pour cause de restauration. Et la salle la plus attendue, eh bien c'est la chambre de la reine, ou plutôt la nouvelle chambre de la reine. Grâce à des documents d'archives, le conservateur du château a reconstitué le décor tel qu'il existait à la veille de la Révolution.
Événement important à Versailles, monsieur le conservateur.
C'est un rêve que j'ai fait en étant nommé conservateur en chef ici. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de reconstituer la chambre de la reine? Monsieur Maurice Chauveau-Poy, mon prédécesseur, avait identifié ce tissu lyonnais de Defarge et qui était le tissu d'été de la chambre de la reine qu'elle a vue quand elle est partie le 6 octobre 1789. Car il y avait une chambre d'été, une chambre d'hiver, un meuble d'été, comme on disait, un meuble d'hiver. Le meuble d'hiver était en velours brodé, et le meuble d'été, c'était celui-là. Alors il a fait faire, par la chambre des soyeux de Lyon, ce tissu de l'alcôve, et c'est tout. Mais ensuite, Barbara Hutton, que je connaissais, je l'ai rencontrée un jour à Versailles chez Lady Mandel, et à 2 heures du matin, je lui dis, tu as un tapis chez toi, qui est le tapis de la chambre de la reine, qu'est-ce que tu en as fait? Elle me dit, t'es à New York dans un garde-meuble, si tu veux, je te le donne. Et le lendemain matin, elle a téléphoné chez elle et elle m'a envoyé ce tapis de savonnerie, qui est un des tapis qui a été tissé pour la chambre du roi et pour la chambre de la reine au milieu du XVIIIe siècle.
Et donc, c'est presque un nouveau Versailles qui ouvre ses portes en ce mois de juin. En plus de la reconstitution de la chambre de la reine, le conservateur a réussi à mettre la main sur des trésors qui étaient dispersés depuis la Révolution. Ce couple de donateurs fait part de ses impressions sur Europe numéro
1. J'ai pénétré tout à l'heure dans les appartements de Madame de Maintenon. J'ai revu le petit lit sur lequel mon beau-père est mort. Et je crois que ça m'a fait quand même un serrement au cœur. Aujourd'hui, je ne ressens pas du tout de fierté, mais comme mon mari, de l'émotion.
Est-ce que vous avez recherché dans les différentes pièces les objets ou les meubles que votre famille avait pu donner?
Certainement, je les ai recherchés. Je ne les ai même pas tous trouvés encore. Il doit y avoir encore des meubles qui attendent leur place définitive.
Tous les travaux de rénovation sont loin d'être terminés, mais est-ce que cela vous paraît déjà satisfaisant?
Dans l'ensemble, oui. Les meubles sont bien en valeur.
Si certains ont fait don de meubles, d'autres ont participé financièrement. Et parmi eux, beaucoup d'auditeurs d'Europe numéro 1. Car à la création de la radio, déjà, Pierre Bellemare sensibilisait son auditoire sur le sujet. Et il le faisait d'une drôle de manière.
Eh bien, c'était dans la série de nos émissions Vous êtes formidable, qui avait commencé en 1955 avec la création d'Europe numéro 1. Et à l'époque, on parlait beaucoup de Versailles, et notamment on parlait surtout de sa toiture, qui a été percée en de nombreux endroits, si bien que l'eau s'écoulait à l'intérieur du château, détruisant tout sur son passage. Et alors Jacques-Antoine, qui était le producteur de cette émission, a eu une idée assez terrible. Il a dit, voilà, nous allons préparer une émission qui va être un reportage sur l'incendie de Versailles. C'est-à-dire qu'on a commencé, Vous êtes formidable, avec Roger Couder, car à l'époque c'était lui qui était le reporter de Vous êtes formidable, il se trouvait à Versailles, et il disait, nous avons été appelés il y a quelques instants par un coup de téléphone, je viens d'arriver à Versailles, et devant moi, le château brûle. Pendant quelques instants, nous avons continué sur ce scénario, faisant croire à tous les Français que Versailles brûlait.
À l'époque, le Standard avait été immédiatement pris d'assaut, et le canular révélé 5 minutes plus tard.
Seulement, pendant 5 minutes, vous êtes sans doute rendu compte de ce que serait pour la France la perte de Versailles.
Je suppose que vous avez dû avoir de nombreux coups de téléphone. Quelle a été la réaction des gens après cette émission fiction, cet incendie de Versailles?
Bien, le Standard d'Europe s'est évidemment allumé immédiatement. Et nous avions en plus de cela SVP à ce moment-là qui s'est embrasé. Les gens s'affolaient, s'inquiétaient et se demandaient comment il se faisait que tous les moyens n'étaient pas immédiatement déployés. Et nous avions été très loin parce que pour que la fiction soit complète, y compris pour les habitants de Versailles, nous avions acheté des kilos et des kilos de feux de Bengale que nous avions disposés dans un coin du parc. Et en effet, de loin, on voyait une lueur rouge colossale monter de Versailles. Si bien que même visuellement, les gens qui étaient dans la région croyaient à cet incendie. Nous avions pris ce moyen évidemment très violent, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si on pourrait encore le faire aujourd'hui. mais parce qu'il fallait choquer l'opinion, car les gens disaient « Oui, Versailles, bah d'accord, il pleut un peu, il y a une tuile qui s'en va. » C'était pas ça du tout, c'était catastrophique. Ils ne se rendaient pas compte, en fait, que le château se ruinait lentement, allait disparaître, moins vite, évidemment, que par un incendie, mais aussi inexorablement. Alors la réaction, finalement, a été bonne. Ils ont été soulagés quand ils ont su que ce n'était pas vrai. Mais par contre, immédiatement, ils ont apporté leur don à Versailles, et je crois que nous avons contribué dans notre modeste part, bien sûr, à restaurer certaines choses dans Versailles.
Pierre Bellemare et sa bande ont rusé pour alerter les Français sur l'état pitoyable d'un monument emblématique, le château de Versailles. Et c'est de cette ruse qu'est né un formidable élan de solidarité qui mènera à la restauration complète du château.
Ondelatte raconte, Christophe Ondelatte.
En 1975, Romain Gary est un écrivain connu et reconnu. 20 ans plus tôt, il a reçu le Goncourt pour son roman « Les racines du ciel ». En 1975, il décide de sortir 2 livres coup sur coup, mais sous le pseudonyme de Émile Ajar. Les livres s'appellent « Gros câlin » et « La vie devant soi ». Sauf que le deuxième roman, « La vie devant soi », reçoit cette année-là le Goncourt.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Au dernier tour, Didier Decoing et Patrick Modiano ont obtenu respectivement 3 voix et 1 voix.
Romain Gary ne veut pas être démasqué. Alors il tente de refuser le prix. Il sollicite un petit cousin pour endosser le costume de l'écrivain. Paul Pavlovitch écrit donc une lettre au nom d'Ajar au président de l'Académie, Hervé Bazin, qui lui répond « L'Académie vote pour un livre et pas pour un candidat. Le prix Goncourt ne peut ni s'accepter ni se refuser, pas plus que la naissance ou la mort. Monsieur Ajar reste couronné. » Et Romain Gary, joueur, décide alors de s'en mêler. Au micro d'Europe numéro 1, il se laisse aller à quelques confidences au sujet d'Émile Ajar.
C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. Ce qu'on appelle, messieurs, d'un mot qu'une certaine presse aime beaucoup employer, c'est ce qu'on appelle un marginal. Je crois qu'il a je n'aime pas les mots de problèmes psychologiques, il a une situation psychique à lui qui fait qu'il estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. On m'a dit ce matin que c'est vrai, qu'il s'était désisté l'année dernière de tous les prix.
Certaines personnes n'hésitent pas à traiter la situation de farfelu, notamment parce qu'il se fait finalement beaucoup plus de publicité en apparaissant pas qu'en apparaissant.
Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier.
Encore une question, Romain Gary. Certaines personnes ont laissé entendre ou voulu croire...
Les questions les plus franches, alors allez-y, oui. Ne tournez pas...
Qu'il y avait un du rewriting, que l'œuvre était...
Merde. Okay. Alors, rewriting par qui ?
Paul Pavlovitch devient donc Émile Ajar. Mais il a pour consigne de rester discret.
2 livres, 2 succès, Gros câlin et aujourd'hui La vie devant soi ont fait d'un inconnu un homme célèbre. C'est banal. Et pourtant, Émile Ajar est un homme mystère à plus d'un titre. Lauréat du prix Goncourt 75, on n'a de lui qu'une ou 2 photos. 2 ou 3 privilégiés le connaissent physiquement. Derrière tout ce silence se cache un homme de 35 ans qui vit un peu partout entre la Suisse et le Danemark et qui a déclaré qu'il n'écrirait plus jamais si on découvrait sa véritable identité.
Si certains journalistes s'interrogent sur son identité, la plupart des gens s'en moquent. Et du côté de l'Académie, Bazin enfonce le clou.
Le fait qu'Ajar soit un inconnu ne vous a pas gêné ?
Oh, il est tout à fait inconnu, dites donc. Et Gros câlin l'année dernière, c'était déjà un livre qui avait été remarqué, il n'est pas du tout un inconnu.
Oui, mais le fait que ce ne soit pas un homme physique pour vous ne nous a pas gêné.
Bon, vous savez, là-dessus, on a eu quelques apaisements, et puis après tout, on s'en fout, qui qu'il soit.
Et la présidente des éditions Mercure de France, Simone Gallimard, va encore plus loin.
Combien prévoyez-vous de tirer l'exemplaire ?
Nous pouvons difficilement prévoir, nous tirons au fur et à mesure des besoins de la vente. Nous pouvons espérer vendre 300 000 exemplaires de ce livre, qui pour moi est une vraie merveille.
On dit que vous ne connaissez pas l'auteur. N'est-ce pas un coup publicitaire?
Ce n'est absolument pas un coup publicitaire. Les maisons d'édition qui se respectent ne peuvent pas faire ce genre de choses. Mais personnellement, je le connais. J'ai passé 2 jours avec lui à Copenhague. 2 jours enchanteurs.
La supercherie ne sera révélée que 5 ans plus tard, à la mort de Romain Gary. Et fait unique dans l'histoire du Goncourt, un écrivain aura donc reçu 2 fois le prix. Alors même que le règlement l'interdit.
1975. On de la raconte sur Europe 1.
En janvier 1975, le zoo de Fréjus est le théâtre d'un drame. L'un des directeurs du parc et son adjoint sont attaqués dans l'enclos des lions. Le directeur du zoo, joint par Europe numéro 1, ne comprend pas comment ça a pu se produire.
Normalement, ils rentrent toujours avec un véhicule pour verrouiller la porte et pousser les fauves dans ce parc à Lyon. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il est rentré sans véhicule. C'est vraiment imprudent, il était rigoureusement interdit de rentrer à pied à l'intérieur des fauves.
Un fauve est dangereux parce que c'est un fauve, qu'il est fin ou qu'il n'est pas fin. Parfois, il l'est particulièrement. S'il est excité par des problèmes de rut, s'il est excité par des tout un tas de phénomènes qu'il veut, s'il est de mauvaise humeur, s'il y a des tas de choses, à ce moment-là, il est particulièrement dangereux. Si vous voulez, c'est le dompteur qui rentre dans une cage de cirque et qui se fait manger. C'est le même accident.
Bilan du drame, 2 hommes sont morts et les 4 lions ont été abattus.
Là, je prétends que je ne pouvais pas faire autrement puisque j'ai épargné les 3 jeunes lions que nous avons rentrés avec mes dompteurs. Mais les 4 adultes qui étaient en train de dévorer les entrailles des 2 pauvres garçons, j'ai pris sur moi de les tuer. Un fauve, on peut le tenir tant qu'il a le respect de l'homme, mais il est bien certain qu'un lion, ou n'importe quel animal, qu'un chien qui a mordu un homme, n'a plus le respect de l'homme, n'a plus la crainte de l'homme, et à ce moment-là, est particulièrement dangereux.
Ce drame provoque une vive polémique en France. Et pour le vétérinaire Michel Klein, il n'y a pas d'autre explication que le manque de formation des employés.
Un accident devait se produire, car il est inconcevable que l'on confie des responsabilités à des gens qui n'avaient pas assez de métier, pas assez de connaissances des animaux, comme ce pauvre garçon Bern, qui était coiffeur auparavant et qui a changé de métier parce qu'il voulait vivre au milieu des animaux. Eh bien, le malheur s'est abattu sur lui et je le plains.
Alors comment ça se fait que ce directeur de zoo puisse pénétrer à pied dans un enclos où il y avait des lions?
C'était tout à fait anormal et contraire au règlement.
Mais comment est-ce qu'un lion peut devenir si subitement, si soudainement agressif et dangereux pour quelqu'un qui le connaît?
Tout d'abord, il peut y avoir un phénomène de contrariété méconnu par l'homme ou les hommes qui l'entourent, mais il y a des problèmes sexuels tels que les chaleurs des femelles ou même le mâle qui est en rut, qui n'a pas eu de contact sexuel depuis longtemps et qui est frustré, et sa mauvaise humeur peut se manifester d'une manière ou d'une autre.
Autre avis sur la question, celui du directeur du zoo de Vincennes, Jacques Nouvel. Pour lui, ce drame est révélateur d'un dysfonctionnement.
Monsieur Nouvel, n'importe qui peut ouvrir un zoo.
Actuellement, oui. Depuis peu, les jardins zoologiques ont été classés parmi les établissements dits classés, c'est-à-dire que leur ouverture donne lieu à une enquête de commodo et un commodo, et c'est tout.
Vous êtes révolté par les incidents comme celui de Fréjus, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Alors que faudrait-il faire? Quelle est la solution?
Je dois d'abord... on est d'abord peiné devant un accident comme cela, de voir une mort d'homme probablement due à une imprudence et à l'ignorance de certaines précautions. La réglementation, à mon avis, est celle que l'on prend chaque fois qu'un homme a une mission dangereuse à accomplir, qu'il soit architecte, médecin, chauffeur d'automobile ou de camion, il doit subir un examen préalable pour juger de sa capacité et n'être admis à exercer une certaine profession que dans la mesure où des gens compétents ont pu juger de sa qualification.
Toujours d'après ce Jacques Nouvel, directeur du zoo de Vincennes, des accidents de ce genre risquent de survenir dans le privé. Car en ce milieu des années 70, tout le monde veut son fauve à la maison.
Il y a une mode des animaux. Je pense que la, la concentration humaine dans les villes qui s'accentue et cet abandon progressif de la vie animale que le fermier trouve dans la campagne incite les gens à multiplier chez eux les animaux de compagnie. Il y aura bientôt des accidents dans ce sens-là aussi d'ailleurs, car cela n'est pas sans inconvénient dans certains cas. Et il y a d'autre part cette mode, le zoo est rentable. Et j'ai prétendu l'autre jour dans un discours que le zoo ne devait pas être rentable s'il était consciencieusement conduit. Et je dis que tous les gens qui veulent gagner de l'argent pour réparer leur château ou pour attirer des clients dans un restaurant ont la mentalité d'un négrier ou d'un proxénète.
Et bien sûr, comme à chaque fois qu'un drame a lieu, on se pose la question des mesures à mettre en place.
En fait, les responsables de zoo se trouvent face à un grave dilemme. Sécurité, mais aussi contact le plus proche possible entre le visiteur et les animaux. Dans l'intérêt de tous, comme ici à Thoiry, des mesures draconiennes doivent être prises dans tous les zoos de France. Liaison radio permanente entre tous les points de l'établissement. Dispositif électrique pour interdire aux animaux de sortir de leur enclos réservé. En cas d'accident, des armes adaptées dans tous les endroits stratégiques du parc. Un personnel et un matériel suffisant en rapport avec le nombre d'animaux et le volume des visiteurs. Enfin, et surtout peut-être, un système de porte électrique isolant instantanément les lieux de l'accident.
Un mois après l'attaque mortelle de Fréjus, voilà que Brigitte Bardot monte au créneau. Après la diffusion d'un documentaire dénonçant les conditions de vie des animaux dans les parcs et les zoos, elle interpelle à l'antenne le ministre de l'Agriculture, André Jarraud.
Dans les jours qui viennent, je demanderai au préfet un état exact des zoos qu'ils ont dans leur département.
Bon, et, si l'état est mauvais, qu'est-ce que vous faites ?
Qu'ils me répondent immédiatement.
Bon.
Et si on me signale un zoo tel que j'ai vu sur le film que nous avons eu la chance de visionner, je le ferme.
Eh bien, vous allez fermer le Jardin des Plantes parce qu'on l'a vu là. C'est une des premières choses à fermer.
J'ai vu le Jardin des Plantes.
Ah oui.
C'est quand même moins moche que ce que j'ai vu de moche sur ce film.
Je vais vous dire, on ne va pas parler des choses plus ou moins moches parce qu'elles sont toutes très vilaines. Il faudrait parler de choses belles.
Oui.
Et pour en arriver là, il faut que vous fassiez quelque chose.
Je fermerai tout ce qui m'apparaîtra aujourd'hui comme dangereux, car ce que j'ai vu est dangereux.
La Fédération nationale des parcs zoologiques dénonce aussitôt un documentaire à charge et va jusqu'à dire que le film est truqué, destiné à manipuler l'opinion publique. Et en cette année 1975, force est de constater que le cri de colère de Bardot ne débouche sur rien.
Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
C'était Le Chasseur de Michel Delpech qui atteint la cinquième place du hit parade en mars 1975.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1975, les campagnes se dépeuplent. Et pour les jeunes qui vivent dans les petites communes, il devient difficile de rencontrer l'âme sœur. Deux maires de deux bourgades distinctes ont alors une idée. Ils vont jumeler leur ville pour organiser des rencontres. ça se passe à Chénérailles dans le Limousin et à Saint-Jouan-de-l'Isle en Bretagne.
C'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. C'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. Nos campagnes se dépeuplent et tout ça, c'est uniquement parce que nos gars ne trouvent pas à se marier. Sans ça, on vit bien à la campagne. N'oubliez pas que Jean Guiton a dit la Creuse sera un jour un reposoir où les gens des villes seront heureux de vivre. De toute façon, celles qui viendront seront très bien accueillies. Nous essayerons de les recevoir le mieux possible. Il y aura un vin d'honneur à la mairie. Puis, on les invitera à un déjeuner. Et puis après, lorsqu'elles seront bien en train, eh bien, on fera une petite sauterie.
Ce jour-là, deux jeunes bretonnes célibataires s'apprêtent à faire le trajet jusqu'à Chénérailles. La mère de l'une d'entre elles est plutôt contente.
Ça vous est égal de la voir partir ?
Ça dépendrait dans quelles conditions.
Quelles seraient vos conditions ?
Il faut qu'elle reste là-bas. Oh, bah d'abord que ça l'enchante elle-même. Je n'ai pas à décider de sa vie personnelle.
Jocelyne, vous resteriez à la ferme ?
Non, je crois pas.
Pourquoi ?
Parce que quand on y a vécu pendant 20 ans, surtout dans une ferme comme ici, on n'a pas l'intérêt. S'adapter à la vie de la campagne après le bac, c'est plus difficile qu'après le certificat d'études.
À leur arrivée à Chénérailles, les jeunes filles sont reçues comme des vedettes. Et le maire se fend même d'un discours devant la presse locale.
Mes chers amis, nous avons des gens de Bretagne qui sont venus nous voir assis devant l'appel. Vous savez, conseil général, j'avais demandé s'il était possible de jumeler des communes de Corrèze et de Bretagne, et s'il était possible de marier nos célibataires. L'appel a été entendu. Et nous avons actuellement à mes côtés deux jeunes filles des Côtes du Nord. Bravo pour les Côtes du Nord!
À Saint-Jouan-de-l'Isle en Bretagne, le maire a vu les choses en encore plus grand. Il a décidé d'organiser une foire aux célibataires. Dès l'annonce de la manifestation, la mairie croule sous les courriers.
À la mairie de Saint-Jouan, le courrier arrive déjà. Je peux vous citer une première lettre. J'ai 44 ans, je suis maçon, je vis seul. J'ai un appartement type F5. Il ne manque qu'une femme à la maison. Une seconde lettre. J'ai 26 ans et commence à trouver la vie de célibataire triste et aussi de ne travailler que pour moi. Je veux donner un sens à ma vie.
Ah bon, il n'a que 26 ans celui-là ?
Ça vous intéresse ?
Oh, c'est un peu jeune.
Qu'est-ce que vous pensez de cet appel des Limousins ?
C'est bien, on pourrait échanger nos idées, c'est peut-être pas mauvais.
Mais le 2 février 75, jour de la foire, voilà qu'un groupe breton qui se fait appeler Célib, comme club des endurcis livrés incompris, est présent pour protester. Dites non au croisement de la race bretonne. Les limousines aux limousins. Les bretonnes aux bretons. Une femme ne se brade pas. Une race ne se bâtarde pas. Devant l'ampleur du phénomène, la presse fait le déplacement. Et face aux journalistes, les membres du Célib et monsieur le maire mettent les choses au clair.
Oui, monsieur Guillemet, vous, comment avez-vous vu cette manifestation?
On l'a prise pour la rigolade. N'importe comment, on dit, ils disent les bretonnes aux bretons. Nous, on dit les bretons aux bretonnes. Hein.
Oui.
Et tout ce qu'on a fait, notre foire qu'on a lancée depuis déjà X temps, eh ben, c'est la foire aux faux célibataires bretons.
Mais à Saint-Jouan-de-l'Isle, on ne dit pas les bretonnes aux limousins, non?
On dit les bretonnes avec qui elle veut. Hein. N'importe qui, hein, y a pas de problème, on les forcera pas à se marier avec les uns ou les autres, hein, ils prendront suivant leur destin ce qu'ils voudront. Hein.
Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord,
nous avons cru d'abord, suivant la presse, que les habitants de Saint-Jouan et les élus disaient les Bretonnes aux Limousins. Alors nous nous sommes insurgés contre l'exportation des Bretonnes et nous disons les Bretonnes aux Bretons. Mais il apparaît qu'ils disent comme nous, alors nous sommes tout à fait d'accord.
Oui.
Ce jour-là, aucune trace en effet de célibataires limougeaux. En revanche, les Bretons ont répondu présents.
On est venu ici en touriste, en fin de compte, on va bien voir, hein. On va trouver.
Et vous avez de l'espoir?
Oh, non. Non.
Ouais. Vous êtes venu à Saint-Jean pour trouver votre bonheur, alors?
Oh, ben on va essayer, quoi.
Pourrait peut-être trouver au cas aujourd'hui?
Vous savez, on habite dans une région plus ou moins désertique. On a tous à peu près entre 25 et 30 ans.
Alors, il serait peut-être temps qu'on se case. Alors, sérieusement, on vient là pour chercher une femme.
Vous avez bon espoir?
Ah, mais certainement. D'ailleurs, j'ai recruté ici, là, dans les célibataires de Saint-Jouan, un numéro 2785. Je ne sais pas s'il me sera attribué, mais enfin, déjà, je me prends une option.
Alors, c'est sérieux? Vous venez ici sérieusement?
C'est pour l'été.
Mais alors que la fête bat son plein, le maire a une révélation à faire. L'organisation de cette foire est surtout destinée à faire venir du monde et à renflouer les caisses du club de foot.
Notre but était de faire un rassemblement des célibataires pour remonter le niveau de notre fête locale qui avait tendance à tomber et essayer de venir en aide à l'équipe de football. Hein ? Des mariages, certainement, il y en aura. Hein.
En 75, il y en a un qui n'est pas du tout insensible au charme de la Bretagne, Jean-Pierre Mariel. Cette année-là, le 20 août, les galettes de Pont-Aven sortent sur les écrans.
Et la Bretagne, vous connaissez?
Vous pensez, c'est la Bretagne, je pourrais la traverser de long en large, les yeux fermés, je suis voyageur de commerce.
Je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que vous étiez un homme de la route, comme moi.
Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je suis colporteur. Je suis en liaison perpétuelle avec le Seigneur et je vais de pèlerinage en pèlerinage pour porter la bonne parole.
Oh, bah arrêtez vos conneries.
Dans le film Les Galettes de Pont-Aven de Joël Seria, Mariel joue le rôle d'un représentant en parapluie, amateur de peinture et de forme féminine.
Je vais peindre. Ah oui, je vais peindre. Je vais peindre comme un fou. Tes yeux, ta bouche, ton front. Ton corps, tes cuisses, ton cul. Ah oui, ton cul surtout. Montre-le-moi. Hein? Ah oui, montre. Montre-le-moi. La cambre-toi. Là, tends-le bien vers moi. Oh, comme il est beau. On dirait un Courbet, dis donc. Quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec, on a peint des milliers, qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul.
Si le film connaît un démarrage timide, il termine l'année 75 à la 40e place du box-office et totalise finalement près de 900 000 entrées. Jean-Pierre Mariel sera même nominé pour le César du meilleur acteur pour ce film qui deviendra absolument culte.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with
C'était Carl Douglas avec l'un des tubes de l'année 75, chanson du film Les Galettes de Pont-Aven. Je remercie toute ma petite équipe, Julien Pichenet, Guillaume Vassot, François Desmoulins et Valérie Inizon. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 1975. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.